Donc alors, là, c'est un petit complément sur les traumatismes. Parce que vous avez compris avec cette histoire d'empiètement d'un côté, de délaissement de l'autre, qu'il est question de la bonne distance. Ni trop, ni trop peu, ni trop, ni pas assez. Et ça se retrouve au cœur du processus psychanalytique. Ça concerne un point très important de l'attitude adéquate du psychanalyste. Alors, on va détailler un petit peu. Le bébé et l'enfant, ils doivent construire progressivement le psychisme, l'espace intérieur, le repérage de ce qui est soi-même. Or, la construction initiale de ce narcissisme repose sur un paradoxe. On n'en est plus à un près. Et le paradoxe, c'est le suivant. Pour se trouver soi-même, pour se reconnaître soi-même, on doit vivre une relation d'attachement avec quelqu'un qui soit suffisamment un double de soi. Hein? La mère va refléter dans ses jeux, dans les interactions, ce qu'elle voit, ce qu'elle perçoit de son bébé. On voit bien ça, hein? C'est les petits bruits de la bouche, les petites répétitions, areux, les définitions à voix haute des émotions qu'elle perçoit chez son bébé, oh qu'il n'est pas content, oh qu'il aime bien ça, oh qu'il a trop faim, etc. C'est-à-dire, en permanence, la mère reflète à l'enfant ce qu'elle voit de l'enfant. Et elle joue avec ça. Et en retour, le bébé se reconnaît lui-même dans cet autre miroir et s'identifie à ce qui lui est renvoyé. Donc vous voyez, pour se trouver soi-même, il est obligé d'avoir un autre miroir. Et bien sûr, ça nous fait penser immédiatement à la question de l'empathie, la reformulation, le système à deux, tous les éléments fondamentaux qu'on retrouve dans la relation primaire du bébé et du petit enfant, et qui font le fond relationnel du thérapeute avec son patient. Hein. Donc c'est intéressant de constater ce paradoxe initial de l'identité du bébé humain, néoténique. Il faut être deux, se voir dans le miroir de l'autre pour être un, pour devenir un. Donc c'est une sorte de paradoxe. Alors, c'est comme ça que je deviens un, mais bien sûr, après cette base narcissique où le un se construit, il faudra découvrir le deux et le fait que l'autre existe par lui-même. Donc cet autre miroir doit, paradoxalement, garder son statut. La mère, elle est le miroir de l'enfant, mais elle est aussi la mère, pour favoriser la différenciation entre le moi et le non-moi. Et là aussi, on reviendra d'ailleurs sur cette phase capitale, qui passera d'ailleurs par une autre expérience paradoxale, clairement mise à jour par Winnicott, dont je vous ai déjà parlé, la capacité nouvelle d'être seul, parce qu'on est seul en présence. Il joue tout seul avec ses petits jouets, tout occupé à son jeu, pendant que sa mère fait quelque chose dans la pièce, et puis il arrête de jouer seul dès qu'elle sort de la pièce, dès qu'elle s'absente. Donc seul en présence. C'est parce que je suis en présence que je peux me permettre d'être seul. Eh bien, c'est pareil pour la question du psychanalyste. Vous voyez qu'il y a beaucoup de traits possibles entre le psychanalyste et la mère, du moins au début en tout cas. Le psychanalyste qui est tout occupé par l'empathie et la sympathie envers son patient. Sympathie, vous vous rappelez peut-être, j'ai dû déjà le dire, ça vient du grec syn pathein. Pathein, c'est ressentir, syn, ensemble. Syn pathein, sympathie, ça veut dire ressentir ensemble. Eh bien, l'empathie et la sympathie sont capitales pour le psychanalyste et pour que soi-même, en tant que patient, on sente qu'on est vraiment accompagné correctement. Mais le psychanalyste est aussi et en même temps tout occupé par l'attention à son propre intérieur, ses propres pensées, et le fait qu'il conserve sa place dans le processus, ce qui permettra ultérieurement au patient d'être seul en présence et de découvrir progressivement à la fois son unicité et à la fois sa spécificité et le fait d'être deux. Donc, Vous voyez qu'il y a le paradoxe initial de la construction psychique, qui est que j'ai besoin d'un autre miroir, mais qu'en même temps, j'ai besoin, dans un second temps, de me différencier pour savoir que c'est moi un et que l'autre, c'est un deuxième. Et alors, du coup, on va voir les grandes lignes de la psychanalyse à propos de ces enjeux d'une pareille importance. C'est que, dans le temps, au tout début de la psychanalyse, l'enjeu, c'était surtout la triangulation, l'Œdipe. Papa, maman, bébé ou enfant, et la triangulation et les traumatismes sexuels. Et puis ensuite, la psychanalyse s'est dégagée de l'enjeu de la triangulation, enfin elle s'en est pas dégagée, mais elle a souligné qu'il y avait aussi un autre enjeu préalable qui était celui du narcissisme. Et c'est là où on retombe sur les traumatismes dont je vous parlais tout à l'heure, qui viennent perturber la fonction même de l'identité de base. On verra ça, bien sûr, encore et encore. Donc, je vous indique simplement comment je parlerai des passages structurants. Il y a le passage du 0 au 1, le traumatisme de la naissance. Autoranque, Ferenczi, Stanislas Grof avec les matrices périnatales, etc. Le passage du 0 au 1. Ensuite, le passage du 1 au 2 dans la relation. D'abord, je suis 1, j'ai l'impression d'être le seul. Elle s'occupe de moi tellement bien que c'est comme si c'était moi qui créais l'environnement. Et puis je découvre que je ne suis pas seul et qu'en fait ma mère est un objet différent, qu'elle fonctionne à sa manière, etc. Donc c'est le passage du 1 au 2 dans la relation. Et ça passe par la phase dépressive dans laquelle finalement je m'aperçois que je ne suis pas le tout-puissant que j'imaginais. Et puis ensuite il y a le passage du 2 au 3. Lors du combat oedipien, c'est-à-dire que ce deuxième, cet objet d'amour, est en fait occupé aussi par un troisième. Et chaque passage délicat, c'est potentiellement une source de fixation pathologique, puisque je vous parlais de la fixation. Mais c'est aussi tout à fait structurant. Et plus tard, un passage délicat, ce sera celui de l'adolescence, qu'on pourrait dire du 3 à beaucoup, orienté par le passage vers une sexualité adulte effective et tous les remaniements que ça suppose. Voilà, donc tout ça pour éclairer la question de ce qui se joue entre le psychanalyste et le patient et comment ça a un rapport avec les débuts de structuration du psychisme de l'enfant. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui fait traumatisme dont je vous parlais tout à l'heure? Dans le trop, dans le pas assez et dans le souvent. Eh bien, ce qui fait traumatisme, c'est surtout que le psychisme n'arrive pas à mettre en représentation et en symbolisation ce qui s'est passé, ce qui lui est arrivé. Donc, il n'arrive pas à traiter ça dans son système intérieur. Et comme il n'y arrive pas à traiter, ben, il va avoir toutes les répétitions dont on parlait. Il n'arrive pas à le traiter alors que c'est ce qui lui permettrait la résilience. Pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas? Parce que la réalité, l'abus, par exemple, puisqu'on en parlait tout à l'heure, sidère par sa brutalité inattendue, ou alors parce qu'elle réactive des traumatismes antérieurs. Donc il y a l'événement traumatique externe, brutal, violent, inattendu, mon père est mort brusquement, mon frère est mort brusquement, comme je disais tout à l'heure, ou ma mère a été hospitalisée, c'est brutal, violent, inattendu. Ça, c'est l'événement traumatique externe. Mais il y a aussi le traumatisme cumulatif des micro-attaques, qui sont généralement liées à une relation toxique. Et dans les deux cas, ça paralyse la pensée, ça paralyse la mise en symbolisation et la mise en représentation interne. Or, la réalité, comme nous le rappelait Rachel en parlant d'une conférence que j'avais faite à Milan, n'est perçue que par sa représentation intérieure. Ce qui explique d'ailleurs qu'on puisse ne pas voir la même réalité parfois d'une personne à une autre. Pourtant, c'est une réalité externe, mais en fait, elle est représentée à l'intérieur. Or, si elle est trop brutale et irreprésentable, eh bien, je vais être en déficit de pensée. Par conséquent, l'enjeu en psychanalyse rêve éveillé tourne autour de la possibilité de mettre en représentation ce qui doit être vu et traité. Et ça passera par la symbolisation, par un espace psychique intermédiaire dont je parlais l'autre fois avec la pierre de Rosette, transitionnel entre les deux, qui permet que progressivement l'opposition dedans-dehors soit suspendue, réalité extérieure traumatique et réalité intérieure éventuellement porteuse d'autres traumas, que ça soit mis à distance et représenté sous une forme médiatisée, masquée, comme dans le rêve de sommeil ou le préconscient. Donc ça, c'est ce que va faire le travail psychanalytique, c'est-à-dire essayer de remettre en représentation ce qui est figé, totalement exclu par la brutalité de la situation ou l'insidiosité de la situation destructrice. Donc le travail psychanalytique tournera aussi, c'est une autre fonction de la psychanalyse, autour des conditions nécessaires pour que le psychisme puisse se représenter le traumatisme. Les conditions nécessaires, c'est avoir un contenant solide, à l'intérieur duquel un mode d'accès à soi-même puisse passer par le préconscient et la fantasmatisation, sans que les mécanismes de défense viennent trop bloquer l'accès à ce qui doit être vu. Donc les conditions nécessaires, le contenant solide et l'accès à soi-même à travers le préconscient, c'est justement ce que va proposer le psychanalyste, la psychanalyse, avec la façon d'organiser l'espace et le temps. Et du coup, pour que le psychisme se représente, le traumatisme, le perçoive, le rejoue, le termine et enfin puisse le digérer. Donc le travail psychanalytique, ça aura aussi pour fonction un chemin intérieur en plusieurs temps, garantir la mise en place d'un contenant fiable, permettre ensuite qu'à l'intérieur de ce contenant, les messages trouvent une forme à la bonne distance. Bonne distance voulant dire qu'ils ne susciteront pas les mécanismes de défense habituels destinés à supprimer la représentation de ce qui fait mal. Trouver le sens et avoir désormais prise sur les répétitions et ultérieurement accéder à sa propre boussole personnelle. En conclusion, bon, on reviendra sur la névrose traumatique lorsqu'elle se caractérise par le retour harcelant du traumatisme dû à la compulsion de répétition. Mais je voulais simplement, dans ce complément, là, dans ce petit topo complémentaire, aujourd'hui, vous laisser entrevoir les quatre points importants d'une psychanalyse réveillée. Premier point, se libérer des traumatismes et de ce qu'ils ont pu apporter comme déformation du vécu et de la perception. Deuxième point, se libérer des empreintes dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont d'abord été nécessaires, mais qui viennent ensuite trop installer l'autre en nous. Les loyautés anciennes, les schémas de comportement, sois fort, fais plaisir, etc. Les culpabilités infantiles, les secrets transgénérationnels, bref, les empreintes. Et on verra que l'empreinte, c'est pas rien. Donc, se libérer du traumatisme, se libérer des empreintes. Troisièmement, en même temps qu'on fait son chemin, adopter progressivement un mode de fonctionnement psychique qui permette de faire face aux bouleversements qui vont nous arriver inévitablement, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Une fois qu'on a réussi à mettre en place le contenant et le traitement à l'intérieur de ce contenant, on dispose d'un mode de fonctionnement psychique qui permet de faire face à des tas de bouleversements. J'ai comparé ça à un culbuto. Vous savez, ces petits personnages jouets qui sont bien lestés de plomb et qui reviennent toujours à la verticale après avoir été bousculés. Ben, un vrai travail psychanalytique devrait nous amener à être des culbutos. Et puis, une fois tout ça, le travail sur les traumatismes, sur les empreintes, sur le mode de fonctionnement psychique qui permet de se récupérer, eh bien, on peut développer l'attention à son vrai self à sa propre boussole intérieure afin de guider sa vie au mieux et de se donner éventuellement une mission de réalisation. Donc, avec ces quatre points, j'espère compenser un peu le côté, comment dire, un peu remuant et difficile à digérer de mon topo de tout à l'heure. Parce que, avec ces quatre points, on sent bien qu'une psychanalyse mérite qu'on y consacre quelques années de sa vie pour cette découverte intérieure. Et c'est ce que je vous souhaite. Voilà. J'ai terminé là pour ce deuxième topo.